Thierry de Montbrial, vous êtes le directeur général de l'IFRI. Vous venez juste de présenter le Ramsès 2011, qui est cette année intitulé « Un monde post-américain ». Pour les lecteurs et les auditeurs de Consulting Newsline, peut-on avec vous faire le point justement sur ce monde et sur cette crise qui est encore en cours ? Volontiers. Alors, on a un monde qui a pas mal évolué, vous l'avez appelé post-américain. Comment on le présente ?
Ce monde, pour moi, il est fondamentalement multipolaire, hétérogène et global. Multipolaire, ça veut dire que, bien qu'il y ait toujours une superpuissance, évidemment les États-Unis ne peuvent plus faire grand-chose tout seuls. Il y a un certain nombre d'autres puissances qui deviennent de plus en plus importantes, pas seulement pour les questions économiques, mais pour les questions politiques également. Les États-Unis sont très largement englués par une extension excessive, essentiellement au Moyen-Orient, au sens large. Il se trouve empêtré également dans des difficultés économiques et risque de devenir des États normaux, je veux dire par là des États comme ils n'ont jamais été depuis des décennies, obligés de se préoccuper de leurs déficits. Obama est lui-même en difficulté à l'intérieur et a toutes les chances de perdre les élections de mi-mandat, les mid-term elections. Donc les États-Unis sont en difficulté, et à côté de ça, vous avez des pays comme la Chine et l'Inde avec leurs taux de croissance phénoménaux, vous avez des pays comme le Brésil et la Russie qui sont différents, mais qui sont des pays importants qui ont capacité d'exercer une influence. Et qui veulent d'ailleurs, comme le Brésil, qui avec la Turquie a voulu se mêler des questions de nucléaire iranien, je crois que ceci va se continuer. Enfin, vous avez l'Union va continuer, vous avez évidemment l'Union européenne avec ses avantages et ses inconvénients. Au total, nous avons donc un monde extrêmement divers et donc difficile à piloter. Ça, et par ailleurs, un monde hétérogène. Hétérogène voulant dire culturellement, idéologiquement, très diversifié, et les Occidentaux doivent, je crois, renoncer à prétendre imposer leur idéologie au reste du monde et tenir compte de cette réalité de l'hétérogénéité. Enfin, globale, cela veut dire que si la mondialisation devait échouer, eh bien, ce serait probablement le point de départ d'une situation dramatique. C'est pour ça que nous sommes condamnés à améliorer la gouvernance de ce monde hétérogène et multipolaire. C'est de façon à pouvoir maintenir la mondialisation, l'ouverture, et ça, c'est le grand défi de notre temps.
Alors, dans cette mondialisation, actuellement, on est encore officiellement en période de crise depuis 2 ans. Comment on peut situer ce monde ? Certains indiquent que ce monde est reparti, on a des croissances assez importantes en Asie. Comment vous le voyez ?
Je le vois certes reparti, donc le pire ne s'est pas produit, on a évité la grande dépression, mais je le vois également très fragile parce qu'il y a des accumulations de déséquilibres un peu partout dans le monde, à commencer d'ailleurs par les États-Unis dans le sens négatif ou par la Chine dans le sens positif, enfin, positif ou négatif, vous voyez ce que je veux dire. Je vois également des progrès en matière de gouvernance financière, mais peut-être pas suffisants pour réduire suffisamment le risque d'une nouvelle crise financière. Donc, je pense que le risque d'un nouveau dérapage est encore assez important. Je crois également que les grands problèmes macroéconomiques sont mal gérés, mal conduits. Les États-Unis et les Chinois, par exemple, ne sont pas d'accord sur les éléments d'une coordination entre leur politique économique. La question des taux de change ne fait également l'objet d'aucun accord. Pour multiplier les exemples, donc le monde est encore un monde fragile, et je crois que ce serait une erreur de crier victoire trop vite, de dire que l'on a effectivement réglé la question posée par la crise de 2008.
Alors, certains observateurs ont indiqué, il y a encore seulement quelques mois, la fin de la zone euro. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Je ne suis absolument pas d'accord avec ce jugement. Je crois que l'Union européenne, la communauté, comme on disait avant, d'une manière générale, a toujours progressé sur des crises. Là, nous n'avons pas, il n'y a pas d'exception. La création de l'euro était une initiative extraordinairement ambitieuse. On savait parfaitement dès le début que les conditions de la viabilité de l'euro n'étaient pas réunies dans un ensemble qui ne constitue pas ce que les économistes appellent une zone monétaire optimale. Et la crise, donc un jour ou l'autre, on devait avoir une crise. Il se trouve que c'est tombé du côté de la Grèce, qui effectivement y a mis du sien, si j'ose dire. Et tout ceci, d'ailleurs, en liaison avec la crise générale de 2008, eh bien, cette crise, comme toujours dans l'histoire de l'Europe, elle a entraîné des réactions qui sont la mise en place de nouvelles structures, de façon, d'une part, à résoudre cette crise grecque et d'autre part, à mettre en place des mécanismes qui permettront d'éviter la récurrence de ce genre de choses. Donc je crois qu'il faut voir ça plutôt d'une manière positive et je salue au passage d'ailleurs la manière dont les autorités grecques, sous l'impulsion du Premier ministre Papandréou, ont mis en œuvre des politiques de stabilisation extrêmement courageuses. Et je note aussi que les autres pays européens ont la frousse maintenant d'avoir des déficits qui pourraient les conduire à se trouver eux-mêmes en difficulté. Même un pays comme la France a peur de voir ses notations dégradées et je ne suis pas sûr que la France aurait pris le taureau par les cornes pour réduire son endettement s'il n'y avait pas eu la crise grecque.
Donc finalement, ce fut presque une opportunité et en France, ça aurait déclenché cette politique de lutte que l'on voit, ces prémices maintenant, de lutte contre nos déficits qui sont quand même abyssaux.
Vous savez, on cite souvent le caractère chinois qui exprime l'idée de crise et on rappelle souvent qu'il y a deux composantes dans ce caractère chinois, l'une qui signifie le danger, l'autre l'opportunité. Toute crise est un danger, mais toute crise est aussi une opportunité. Et je crois que les Européens ont un certain talent pour saisir les opportunités.
Alors on sait les Américains aussi assez doués pour saisir les opportunités. Il semble que malgré tout, leur reprise ne soit pas très forte et qu'en termes d'emploi, ils restent quand même dans une situation difficile.
Oui, mais je pense que les États-Unis ont des capacités potentielles de rebond importantes parce que c'est une économie qui est culturellement très dynamique. C'est d'ailleurs aussi un pays qui est démographiquement, qui a un élan démographique, qui contraste de ce point de vue-là avec les autres pays mûrs. Mais c'est un pays qui a accumulé des déséquilibres au fil des décennies. C'est un pays qui a, pour justement opérer cette relance qui est maintenant en cause, qui a injecté des montants dans l'économie qui s'expriment en termes de milliers de milliards de dollars. Et c'est un pays qui n'a pas pris en main justement le problème du rétablissement de ses comptes à moyen terme. D'un côté, il y a des impulsions qui ont provoqué en effet cette reprise, mais de l'autre, il y a des très lourds handicaps structurels. Et je pense que les États-Unis vont être aussi condamnés à se préoccuper sérieusement de ces handicaps, comme ils ne l'ont jamais fait, encore une fois, depuis des décennies, parce qu'ils ont bénéficié de leur statut de puissance dominante et de leur statut de pays à monnaie de réserve, qui fait qu'au fond, les déficits de balance des paiements, ou corrélativement de finances publiques, ou leur insuffisance de leur épargne, n'avaient pas grande importance.
Alors, donc, un affaiblissement des États-Unis, la montée des puissances telles que l'Inde, la Chine, etc. Vous nous avez aussi indiqué, dans cette fameuse hétérogénéité, l'arrivée de politiques un petit peu baroques, un petit peu nouvelles, un petit peu individualistes, comme on l'a vu en Iran récemment avec l'intervention de la Turquie et du président Lula et du Brésil.
Je crois en effet que l'exemple du Moyen-Orient est très intéressant parce que le Moyen-Orient intéresse tout le monde, pas seulement les pays occidentaux, mais il intéresse le monde entier parce qu'il y a des ressources et que tout le monde veut avoir accès à ces ressources et que des pays comme la Chine et bien d'autres voudront de plus en plus avoir leur mot à dire dans des pays comme la... dans les pays de la région du Moyen-Orient. Et en effet, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant ces derniers mois, c'est le fait qu'un pays comme le Brésil veuille faire entendre sa voix sur des grandes questions internationales.
dont il était étranger traditionnellement, et le fait que la Turquie soit en train de vouloir exprimer sa capacité naturelle ou sa vocation naturelle à être une grande puissance régionale. Et donc la démarche conjointe de Lula et de Erdogan à Téhéran pour proposer une solution au problème nucléaire, même si elle n'a pas abouti, est le signe, je crois, ou un signe précoce de ce qui pourrait venir un changement important. Et je suis sûr que si les Occidentaux ne sont pas capables d'aboutir à une solution du problème israélo-palestinien, de plus en plus on verra le reste du monde s'en occuper et s'en mêler.
Alors tous ces pays, on va les retrouver très bientôt au sein du G20. Comment envisagez-vous ce G20?
Je pense que le G20 de Séoul, c'est-à-dire le prochain, le 11 novembre, devrait être un succès. La Corée, qui est un pays d'ailleurs très remarquable, a préparé ce G20 avec d'une manière extrêmement professionnelle, extrêmement remarquable. Je crois aussi que tout le monde est conscient que c'est la première fois qu'un pays émergent justement prend la présidence d'un groupe important de ce type. Donc il sera très certainement perçu comme un succès.
Certaines propositions ont été faites par le président de la République, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ces propositions concernent évidemment la présidence française qui va suivre. Elles portent essentiellement sur le système monétaire international, sur la question des marchés de matières premières et la réforme du système de l'ONU. Ce sont donc des propositions extrêmement ambitieuses. Dans quelle mesure sera-t-il possible d'aboutir à des conclusions très fortes sous cette présidence française, la question reste ouverte. Alors, cela dit, comme dit toujours, tout dépend aussi des attentes. Nous avons dit à cette conférence de presse avec mes collègues de l'IFRI que c'est vrai que même un progrès limité, par exemple sur les marchés dérivés de matières premières, bien que ne résolvant pas la question générale des marchés de matières premières, pourrait quand même être considéré comme un succès. Bon, si on arrivait pendant cette présidence à débloquer un peu la question de la réforme du système de l'ONU, ce serait un progrès incontestable. Je pense que sur le système monétaire international, il peut y avoir peut-être des avancées partielles, mais je doute qu'il puisse y avoir de grands pas en avant. Pour une bonne et simple raison, c'est que les divergences d'intérêts entre les principaux acteurs sont beaucoup trop grandes.
Alors Thierry de Montbrial, vous savez que nos lecteurs sont des consultants, donc des experts qui conseillent les entreprises. On a vu les entreprises européennes partir vers l'Asie ces dernières années. Beaucoup y ont plutôt cherché des sous-traitants à des prix raisonnables. Certaines y ont offshoré des activités de services. Est-ce qu'il n'y a pas un message vers ces entreprises qui consisterait à leur dire qu'il faut aussi conquérir ces nouveaux marchés émergents?
Je pense que c'est une vraie question. Il faut s'entendre aussi par ce qu'on appelle conquérir ces nouveaux marchés. Je suis moi-même membre du conseil d'administration de Capgemini. Je vais vous quitter dans quelques minutes pour le rejoindre, justement, qui a maintenant à peu près le quart de ses effectifs en Inde. Et là, ce n'est pas vraiment de l'offshoring, si vous voulez, ce genre d'activité. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de la sous-traitance à bas coût. Mais ce qui est vrai, c'est que il peut y avoir la tentation, dans certains cas, d'obtenir des succès ou des avantages à court terme au détriment du long terme. Je pense surtout au transfert de technologies, si vous voulez, et certains, actuellement en cours, l'affaire du TGV en Californie. Il est certain que des transferts de technologies dans un pays comme la Chine capacité d'apprendre, qui est extrêmement rapide, des Chinois, peut faire que nous avons des avantages à court terme, mais nous risquons de le payer ensuite extrêmement fort, parce qu'une fois qu'ils ont appris, évidemment, ils peuvent nous payer des croupières. Hein, donc, y a toute une réflexion sur la nature des relations entre les pays mûrs et les pays émergents qui méritent approfondissement. Et en tout cas, les consultants seront très heureux d'apporter leurs conseils en stratégie auprès de ces entreprises. Thierry de Montbrial, on sait donc que le Ramsès 2011 est maintenant disponible. Les consultants vont pouvoir donc se le procurer. Nous vous remercions pour cette présentation ce matin, puis nous vous remercions pour cette interview au nom de nos lecteurs et de nos éditeurs à Consulting Newsline. Merci.
Merci à vous.